1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Talbot est là. Comment ça va? Bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot. On est sur le point de diffuser un peu partout. Ça commence lentement, mais sûrement. Avec moi ce soir pour m'aider, nul autre que notre ami Max Tremblay. Salut, Max.
Hey, salut, Denis. Ça va bien?
Ça va bien, merci. Ça va très, très bien.
J'espère que le fournisseur Internet va tenir le coup ce soir.
Tu as eu des petits problèmes, hein, paraît-il?
Eh oui, j'ai tout vite cancellé mes streams hier. Je fais toujours des streams le soir de jeux vidéo ces temps-ci, puis hier, j'ai cancellé ça. Mon fournisseur Internet incapable de me fournir un service de qualité hier.
Ah ben, ça arrive. J'ai été obligé de redémarrer tout ça, moi aussi, à un moment donné. Malheureusement, ça fait partie des joies de la diffusion sur Internet. On est tributaire des services auxquels... pour lesquels on perd beaucoup d'argent souvent, puis c'est plate, mais ça arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait partie de la game.
Ça fait partie de la game, en effet.
Bon, on va partir le chat maintenant. Ce sera pas long, mesdames, messieurs. Comme je vous disais tantôt, on a tout recommencé, on a tout rebooté, puis on a tout relancé.
Yep. Pendant ce temps-là, on va dire salut à Easy Funny, Wolfstorm, Cage M94, Marie-Ève aussi qui dit bonjour, salut Anouk, salut Freak, qui dit t'as une petite voix de rhume, mon Denis.
Ah, je pense que je me suis fait avoir. Je pense que je me suis fait avoir. Mais j'ai la force de 20 hommes, n'ayez pas peur.
Et moi, j'ai plus ma force de 20 ans.
Ça fait longtemps que je l'ai plus, ça, moi non plus, mais c'est pas grave. Allez, bon, on va faire des petits ménages là-dedans. On va enlever ces dons-là, on va en mettre d'autres, on va faire le tour, on va enlever ça, on va faire ci comme ça. Et voilà. Bon, on met ça à zéro. Tout le monde est à zéro. Attends, un petit peu, un petit coup ici. Bon, et voilà, c'est réglé. Ah, oui, c'est ça, c'est la voix qui oui, est grave un peu. C'est, je combats quelque chose, je travaille fort et je suis pas sûr que c'est moi qui gagne. Je suis pas sûr dans le moment, mais c'est pas grave. Mais si un homme normal serait couché avec une horde de médecins à son chevet. Non, pas moi. C'est de simple mal, ça guérit bien des maux.
Ouais, mais tu vas avoir le week-end pour te reposer.
Tu penses, toi? Hey.
Je sais pas.
Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai un petit garçon qui fait du plongeon. Hein, fait que ça, okay. On est de bonne heure autour des piscines. Et,
il fait chaud des enclos de piscine, par contre. C'est quand tu ressors, c'est là que c'est le rhume qui est facile à attraper.
Hey, écoute, mon vieux, quand tu vas au stade olympique, tu as l'impression d'être au biodôme. Là. Tu rentres dans l'endroit où la grande piscine se trouve. Là. Hey, c'est bolac. Amène tes shorts.
C'est ça que ça fait.
Attends un peu. Je fasse autre chose ici. Je m'en vais dans là-dedans. Je clique ici. On va l'avoir, mesdames, messieurs. Salutations aux gens qui nous écoutent sur Facebook. Hier, il y avait M. Lafortune qui nous écoutait, Charles, son prénom. Merci, Charles, d'avoir été là hier. Je ne sais pas si tu vas être là encore une fois ce soir, mais ça a été très apprécié.
Ah, cool.
C'est un tripeux de techno, notre ami Charles.
Ah, je ne savais pas.
Ah, ouais. Ah, ouais. Bon. À part ça, bon, on va faire un tour. Joël Gobeil, comment ça va? A.K.A., on l'a dit tantôt, GM 84, 94. Salopard DX, salutations. Joël Gobeil, salut. Salut, cinéphile. Comment ça va? Ciné? Ça doit être ciné. Cinéphile avec un N-E-Z, là. Ça me surprend toujours les nicks aussi que vous les prenez. Aussi, vous les prenez. C'est drôle. Monsieur Tremblay, Max est avec nous également ce soir. Ça vous tente de jaser avec lui. Je vous rappelle, allez faire un tour sur Twitch... .tv, / Radio Talbot. Tiguidou est avec nous. Le Tiguidou is in the house. Talbot QC, salutations. Ah, il y en a un autre. Il y a Ben Chausselet également qui est là. Le rhume va pas pire. Ça va bien. On va s'en sortir, mon Ben. N'aie crainte. Marie-Ève, salutations. Encore une autre fois, je viens faire un tour du côté du Comic-Con de Québec. On sera là. On va avoir du fun.
Ah, super.
Ouais.
Moi, je suis pas là.
Non. T'as un bout de chez vous, hein? C'est quand même assez loin.
Non, c'est pas si pire. C'est 3h30 de route à partir de chez moi pour aller au Comic-Con de Québec. Mais c'est plus une question monétaire. 3 enfants à l'école et cette année, les coûts garderie, les coûts dans la rentrée et tout, ça a rentré dans le portefeuille.
Ben oui, non, c'est ça va vite. Ça va assez vite. Moi, j'étais content quand mon fils me dit « Hey, je vais faire du plongeon. » Tu sais, pas de hockey, pas de patin à acheter, c'est le kit. Hey boy, ça coûte aussi cher, Boswell. Mais moi, je pensais que j'ai acheté un speedo puis la titre.
L'aiguise à plongeur, hein. Où est-ce qu'il l'aiguise?
Oui, c'est ça.
Que ça fait pas de splash. Ça coûte cher, cet équipement-là.
Oui, mais c'est les coachs puis les piscines puis tout ça. Faut que tu loues ça. En tout cas, c'est... Mais quand même, c'est une belle discipline. Puis tant qu'il va aimer ça, on va l'encourager. Ah, voilà. Jar Jar 26, salutations, comment ça va? Farum 20. T'en vas à Québec livrer des électroménagers, dit-il. Écoute, bon voyage, j'espère que ça va bien aller. Viens pas à Montréal en fin de semaine. Il y a du monde sur la route et ça va être bloqué bien dur, c'est à cause du marathon. Et paraît-il que le marathon, cette année, ils fournissent des bottes de travail pour passer dans les nids de poule. Oh. Ça va être l'enfer. Il va y avoir beaucoup de monde, ça va être le fun, ça va être une belle festivité encore une fois. Salut Max Eliseux, bonsoir. Mes shorts, salutations. J'aime ça dire ça. Salut Wolfstorm, salut, comment vas-tu? J'espère que tu es en forme.
Il y a tout le temps une histoire autour des noms que les gens utilisent sur Internet. Soit qu'on utilise notre nom réel, moi j'ai tendance à faire ça, mais parfois là, on a des noms qui nous semblent venir de nulle part, puis il y a tout le temps une histoire en arrière. Ça, c'est un truc que je trouve super intéressant tout le temps. Mais je pense que je l'ai déjà dit ici.
On pourrait faire une espèce de documentaire là-dessus, ou de recherche. Aïe, aïe, aïe. Bon, hey, ça, on va commencer ça. Stand-by, tout le monde.
Enfin, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Maintenant, il vous faut négocier l'hypothèque.
Tout ouvert ou fermé?
Quel prêteur choisir?
Où avez-vous mis le numéro du notaire déjà?
Ah oui, l'assurance hypothécaire en plus. Concentrez toutes ces étapes en un seul endroit. Votreconseiller.net. Du notaire aux assurances, évitez de vous y perdre. Nous vous accompagnerons dans votre processus d'acquisition avec un réseau de professionnels multidisciplinaires. Gagnez du temps et retrouvez tout sous un même toit. Votreconseiller.net. Une équipe jeune et dynamique, signée Yann Sénéchal.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Radio-Talbot@gmail.com. Radio-Talbot est une présentation des brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour le DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Comment allez-vous? Ici Denis Talbot. Bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot du 22 septembre. Mesdames, messieurs, salutations aux gens qui nous écoutent également sur Facebook. On est barré sur Hitbox et on est encore sur twitch.tv/Radio Talbot pour nous aider ce soir dans notre tâche, mesdames, messieurs. Fort agréable, on tient à le dire. Nul autre que, oui, Max Tremblay. Comment ça va?
Bonsoir Denis, ça va bien? Salut le chat!
Hey, j'espère que tu es en forme ce soir. Hier, j'ai écouté ton truc, hey, ça allait pas bien, ça marchait pas comme tu voulais, les connexions Internet débarquaient. Et ça, je peux te le dire, moi, ça me met en tabarouette.
Ben écoute, hein? Denis, les services Internet aujourd'hui sont gratuits, hein, tout le monde, c'est ça?
Ben oui.
On est tout le temps très heureux quand ça fonctionne aussi bien.
Mais ce soir, ça semble tenir le coup, ton histoire. Alors, on espère que tu vas être là avec nous pendant toute l'émission. On a un show quand même pas mal intéressant pour vous. Vous savez sûrement que nos amis de Nintendo embauchent. J'ai mis ça sur Facebook et ça fait boule de neige, justement. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'emploi. Alors, si ça vous tente, justement, d'en savoir davantage sur l'offre d'emploi, c'est une espèce de représentant itinérant qui va se promener à travers différents marchés de Nintendo. Alors, vous n'avez qu'à aller faire un tour sur Nintendo of Canada, la page officielle de Nintendo, pour avoir plus de détails. Donc, représentant francophone, mais également bilingue, ce serait intéressant, je crois. La liste de tout ce qu'on recherche pour le candidat ou la candidate idéale est disponible sur le site web. Donc, je vous invite, sur le site Facebook, je vous invite à aller faire un tour, aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça, moi, si j'avais été plus jeune, j'aurais postulé pour ça. Moi.
Ben, c'est le genre de truc que j'aurais aimé si j'avais été dans les villes visées. Puis... Ouais. C'est quand même juste, même si ce n'est pas nécessairement un travail complexe, c'est quelque chose qui est intéressant. On est là pour partager un peu notre amour des jeux de Nintendo et puis présenter certains trucs pendant les week-ends. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité, des fois, pour commencer peut-être à se mettre un peu dans l'industrie. Quelqu'un qui veut travailler là-dedans, c'est peut-être une chance.
Ouais, on ne sait pas. Il y a le Luc Duchesne qui travaille chez Ubisoft maintenant, qui est rendu un big boss. Il a commencé comme représentant comme ça. Je pense que c'était pour les produits Thrustmaster à l'époque. À l'époque, Ubisoft vendait des périphériques d'ordinateurs. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait donné une espèce de contrôleur pour une main dont je me servais encore récemment pour faire les changements de caméra ici. Et là, il est rendu Big Boss. On ne sait jamais où ça peut mener, donc ça vous tente de postuler pour ce job-là. Bien sûr, il faut bien connaître les produits Nintendo, l'historique des personnages, tout ça. Donc, allez faire un tour sur Nintendo of Canada et le poste qui est disponible est affiché là-dessus. Meilleure chance, donc, à tous ceux et celles qui, on va dire comme l'autre, postillonneront. Je sais que ce n'est pas la bonne expression. J'ai eu ça l'autre fois passé. D'autre part, vous savez sûrement que Planète Techno recommence et ils ont fait une belle publicité, mesdames, messieurs. Et je suis content de vous la montrer parce qu'elle est bien faite. C'est fait avec amour. On le sent. On l'écoute tout de suite. Regarde bien ça.
Troisième saison de Planète Techno. Jean-Michel Vanasse réunit les meilleurs collaborateurs. Un scientifique expérimenté. Un expert en objets connectés. Une journaliste allumée. Et un joueur invétéré. Leur mission, explorer les dernières technologies, découvrir des gadgets étranges et repousser les limites de l'inconnu. Planète Techno, vendredi 19h, ici Explora.
OK. Tout ça, c'est bien beau. Mais mon jeu favori, Pong, come on! Come on! Tu sais, c'est un journaliste ferré, une fouilleuse et un gamer. C'est moins ça! Come on, Jean-Michel, come on! Mais non, sérieusement, c'est bien fait. Venez faire un tour pour la première. Et on se promène cette année de studio en studio. On a différents lieux de tournage. Donc, ça va être pas mal cool. Et oui, mon jeu préféré, c'est Pong, on va dire.
Moi, je vous souhaite une excellente saison, en tout cas.
Alors, écoute, c'est bien fait.
Michel, je crois que Pascal Forget est encore là cette année. Hein?
Oui, on a des professionnels et aussi Pascal Forget. Alors...
Qu'est-ce que c'est?
Donc, non, Pascal, c'est un bon copain. On fait souvent cette blague-là. Quand les gens me demandent avec qui je travaille avec des professionnels, Jean-Michel Vanasse, Catherine, nanana, et aussi, malheureusement, avec Pascal Forget. Mais non, sérieusement, c'est un chic type. On a beaucoup de plaisir. Et on se taquine beaucoup sur ce plateau, mesdames, messieurs, qui est très, très, très plaisant. Donc, on va faire les critiques de jeu encore cette saison-ci. Merci beaucoup à Jean-Michel et à toute l'équipe d'Explora de me faire confiance, encore une fois, pour cette tâche. Et toi, oh toi, M. Max Tremblay, es-tu un client de Yahoo?
Non. C'est une bonne chose.
L'as-tu déjà été?
Oui, je l'ai déjà été dans le passé, puis là, il va falloir que je lise les détails, bien comme il faut.
Écoute, il n'y a pas de danger. Si c'est... je ne dis pas de danger. Ils sont fait hacker plusieurs fois depuis leur existence, mais la dernière fois remonte à 2014 et on vient juste de l'apprendre aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il a entendu aussi longtemps pour nous dire « Hey, client de Yahoo qui est chez nous ». Vous êtes peut-être parmi les 500 000 comptes qui se sont fait hacker par un groupe appartenant à un État qui, on refuse de nommer lequel, qui aurait piqué donc 500 000 noms qui se promènent comme ça dans la nature depuis 2 ans. C'est assez irresponsable, je trouve.
Et c'est exactement le terme que j'allais dire. C'est complètement irresponsable. Normalement, dans l'informatique d'aujourd'hui, une compagnie qui sait et qui apprend que les comptes qu'elle gère sont compromis, fait un communiqué rapidement pour permettre aux gens de modifier leurs informations sur Yahoo, évidemment, mais sur les services externes, parce qu'il y a plein de personnes qui utilisent des identifiants et des mots de passe uniques sur 250 services différents, ce qu'il ne faut pas faire. Ça, les gens pour qui utilisent, qui connaissent Ben Demand, lui, il pourra en parler très, très longtemps. En
tout cas. Ben, moi, je peux te dire une chose, c'est que si tu n'as pas changé ton mot de passe depuis 2014, c'est un problème. Tu devrais le changer régulièrement. Au moins, prends l'exemple de tes détecteurs de fumée. Quand tu changes de détecteur de fumée, de la pile dedans, là, change ton mot de passe. C'est aussi simple que ça.
Exact.
Chiffre des lettres et puis changer régulièrement. Donc, si vous êtes membre de cette grande famille Yahoo, vous allez recevoir cette fameuse lettre ici qui nous explique un peu ce qui s'est passé, de se méfier des phishing scams, des gens de l'hameçonnage, justement. On vous dit quoi faire. C'est une belle missive de deux pages. Donc, et puis, c'est Bob Lord, le Chief Information Security Officer, qui nous envoie ça, qui nous dit quoi faire. Et même en français, si vous allez faire un tour sur le site de Yahoo, on vous donne des indices de pistes pour savoir si votre compte a été piraté ou pas. Mais de toute façon, prenez pas de chance. Changez-moi tout ça de suite. Tu allais dire quoi, toi? Ouais,
je vais donner un exemple concret aussi parce que Yahoo, c'est un service qui est assez tentaculaire aussi. Par exemple, Yahoo possède le service photo. Attends, j'ai un blanc. Colin, j'ai oublié. C'est un service de stockage de photos très, très, très populaire. J'ai
FivePix
dans...
Attends un peu, là, parce que tu me le demandes, je ne sais plus. Attends un peu, on va fouiller là-dessus, là, le service de photo.
En tout cas, bref, si vous utilisez...
C'est pas Imager?
Oui, c'est un des... Non, c'est pas Imager, mais c'est un service qui est très, très, très populaire. Puis ça va me revenir. Je vais essayer de le retrouver pendant la soirée. Puis si vous avez un compte sur ce service-là, bien, comme la compagnie appartient à Yahoo, bien...
Flickr.
Premier aussi.
C'est-tu Flickr?
Oui, c'est Flickr. Bon. C'est Flickr, oui, effectivement.
Bon, merci. On l'a trouvé. Merci beaucoup, Venturefly. Picasa, c'est appartient à Jared, à Google, c'est ça.
Yep.
Donc, tu disais que c'était tentaculaire?
Oui. Donc, voilà, c'est que comme on peut créer des comptes, on peut utiliser le compte Yahoo pour connecter une foule de sites, ben, c'est à faire attention. Donc, vérifiez vos informations, vérifiez aussi souvent dans les accès. Par exemple, si vous avez un compte Google ou un compte Microsoft, vous pouvez aller voir les accès qui ont été faits avec votre compte. Donc, vous pouvez réviser où est-ce que vous vous êtes connecté la dernière fois et détecter si vous avez eu des connexions suspectes. À ce moment-là, ben, jetez un œil à ces informations de sécurité-là. Profitez-en pour activer les doubles authentifications sur vos comptes aussi. C'est très important aujourd'hui. On est en 2016, on n'est pas en 1992. Donc, c'est ça la sécurité informatique aujourd'hui.
Mais c'est drôle, souvent, je reçois des notices qui me disent « Ah, tu vois que tu as essayé de changer ton mot de passe? Si oui, tu sais, connecte-toi. » Non, il y a quelqu'un qui s'essaye. Coquin! Mais la double et la triple authentification qui s'en vient maintenant avec la biométrie, ça va être dans les prochaines, dans les trucs qui s'en viennent dans les prochaines années. Ça va être assez, ça va devenir difficile un peu, mais il y a toujours une façon. Ce qui est fait par l'homme peut être défait par l'homme, il faut s'en souvenir.
Puis j'ai un problème avec ça, hein, moi, personnellement, parce que je fais une parenthèse rapide. Là. Concernant la double authentification avec biométrie, c'est que là, présentement, on a un système de mots de passe que les gens doivent se rappeler, qui est un système qui est très imparfait, mais qui est facile à changer.
Ouais.
Imagine, Denis, la situation où ton mot de passe, qui est ton exemple, l'empreinte digitale de ton doigt ou ton empreinte rétinienne, a été piratée. Comment tu fais pour changer ton empreinte digitale ou pour changer ton empreinte rétinienne?
Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu vas changer de doigt ou de changer d'œil? Oui, c'est une bonne question. Mais pirater une empreinte digitale, ça se fait. Mais pirater un truc dans la rétine, ça doit être un peu plus difficile, mais je suis sûr qu'on va arriver à trouver une façon de le faire.
Il fait par l'homme peut être défait par l'homme, Denis.
Exactement.
À partir du moment où tu as transformé en information numérique l'empreinte rétinienne d'une personne, c'est du code. À ce moment-là, ce code-là peut être décrypté et copié. Donc, moi, selon moi, c'est quelque chose qui est parfaitement plausible de croire que ça peut aller dans une direction comme ça. Et ça me donne des petits frissons, je dois l'avouer.
Effectivement. Écoute, c'est inquiétant tout ça. Mais quand même, vaut mieux ça que rien partout. Oui, et sexe, God, 1, 2, 3, 4, ASDF, votre date de fête, le nom de votre fils, non. Le nom de votre chien, votre date de fête, non. Trouvez quelque chose. Des chiffres, des lettres, mélangez tout ça ensemble. Et écrivez pas ça c'est en dessous de votre clavier non plus, vous le savez. Mais il y a des gens qui le font. Par contre, il y a des gens qui ont un petit livret, qui vont écrire tout le mot de passe pour leurs descendants et vont le mettre à quelque part dans un lieu sûr, loin de la maison. Ça peut être pratique si jamais vous pétez aux frettes et puis que vous voulez que vos milliers de disques ou de films que vous avez entreposés sur votre ordi puissent servir à quelqu'un d'autre après que vous ayez trépassé. Rest in pieces, comme dirait l'autre. Hey, on va parler d'un jeu maintenant. Je l'ai reçu, toi aussi, tu l'as reçu cette semaine. C'est un jeu qui s'appelle Recore. J'ai certaines réserves. Je pense que tu en as aussi. Rappelle-nous aux gens, c'est quoi l'histoire de ce fameux titre Recore?
Recore, c'est un jeu qui se passe dans le futur. On incarne un personnage qui s'appelle Jules Adams, qui on n'a pas énormément d'informations sur l'histoire, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans le désert, on cherche à réactiver certaines tours sur une planète qui s'appelle Far Eden. Et au début de l'aventure, on comprend que l'humanité a quitté la Terre parce qu'il y a eu un grand cataclysme sur la Terre qu'on a appelé les grands vents des sables. Et que durant le voyage, les gens se sont rendus sur Far Eden parce que c'était une planète qui avait du potentiel pour recevoir l'humanité. Mais 200 ans plus tard, on se réveille et on est tout seul sur la planète. On cherche à comprendre pourquoi et quand même à faire notre travail et à réactiver les tours pour faire le nettoyage.
C'est un jeu de plateforme, il faut dire. C'est une espèce de platformer avec quand même dans des environnements qui sont très jolis. Là, c'est le tutoriel qu'on vous montre, comment sauter, comment courir, etc., comment glisser. Intéressant. Et par la suite, il y a les jeux de puzzle qui sont offerts. Puis, à mon avis, c'est intéressant, mais ça manque peut-être un petit peu de variété. Je te laisse continuer.
Oui, en fait, pour ceux qui ont déjà joué au jeu Metroid Prime, c'est fait par le même producteur que Kenji Inafune, et on sent clairement l'influence, c'est évident. Au niveau de la jouabilité, c'est un jeu qui se base sur la couleur de vos armes pour affronter certains ennemis qui ont les mêmes couleurs aussi. On doit associer les couleurs pour avoir plus d'impact sur les ennemis, mais ils servent aussi à débloquer certains environnements. Et plus on progresse dans l'histoire, qu'on monte en expérience et qu'on obtient une ressource qui nous permet d'accéder à de nouvelles portes qui s'appellent des orbes prismatiques, on peut progresser de plus en plus loin. Tu le dis bien, c'est un jeu de plateforme, mais c'est aussi un jeu d'aventure à monde ouvert. Donc, on peut vraiment explorer cet environnement-là beaucoup. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de donjons qui sont cachés un peu partout. Où est-ce qu'on peut aller refaire encore et encore pour atteindre des objectifs?
Parce qu'on peut faire du grinding, finalement, pour aller chercher ces fameuses ressources. À un moment donné, je suis content. J'avais trouvé mes ressources, le kit. À un moment donné, pour me faire progresser, on me dit, « Bien, mon beau Denis, si tu veux continuer, ça t'en prend 45. » Je dis, « Voyons, non! Come on, pas encore! » Finalement, oui, c'est ça. C'est un irritant pour moi.
J'aimerais parler de la jouabilité un petit peu parce que ça fonctionne encore là un peu comme Metroid Prime, c'est qu'on peut verrouiller les ennemis avec la touche pour viser. Ouais. La difficulté n'est pas d'en viser les ennemis, c'est de se déplacer toujours constamment pour éviter les attaques. Je trouve que c'est un système de combat qui fonctionne excessivement bien. Du côté de la jouabilité, selon moi, le système de combat, le système avec aussi le crochet où est-ce qu'on peut retirer le corps d'un ennemi, soit rapidement ou en travaillant un peu plus fort avec la corde, ça fonctionne bien. J'adore aussi le système de platforming. Les systèmes de jeu de plateforme dans ce jeu-là est ultra précis, c'est étonnant. Ouais. Dans un jeu en 3D comme ça fonctionne vraiment bien. Où est-ce que le bas blesse? C'est pas au niveau de la jouabilité, c'est en termes de choix de design. Je pense que c'est là qu'on a fait une erreur, c'est que la progression est relativement naturelle, donc on obtient toujours les ressources qu'on a besoin pour pouvoir progresser dans l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au milieu de l'aventure. À partir de ce moment-là, le jeu nous dit, là, tu arrives à telle porte, tu n'as pas assez d'orbes prismatiques pour pouvoir entrer, tu dois retourner dans le désert pour pouvoir trouver d'autres orbes, pour pouvoir retourner là-bas. Et ça devient un peu fastidieux à un certain point.
Ça m'a donné un coup de pied dans les talbotines. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, t'es pas sérieux, ils veulent pas simuler la durée du jeu, faire semblant que ce jeu-là est encore plus long qu'il l'est vraiment, en nous envoyant nous promener encore pour chercher 45 patentes. Je dis, wow, attends une minute. Mais quand même, le jeu.
Là-dessus, j'apporte une bémol parce que moi, je trouve que c'est un style en soi. C'est pas nécessairement un défaut qu'on le fasse. Par contre, on doit donner des outils pour pouvoir le faire. Puis, ce que j'aime dans un jeu vidéo, c'est que lorsqu'on. Tu sais, Denis, quand on progresse dans un jeu, t'obtiens de plus en plus de capacités, t'obtiens de plus en plus de pouvoirs.
Ouais.
C'est fun dans un jeu quand tu peux utiliser toutes tes capacités entières en même temps. Quand on arrivait à la fin du jeu, d'un jeu comme Quantum Break, parce qu'on contrôlait plusieurs pouvoirs de temps, à la fin, tu avais tout. Tu as l'impression d'être super puissant. Puis dans la problématique avec Recore, c'est que les pouvoirs, même si on a tout débloqué, On doit les utiliser avec parcimonie parce que c'est un jeu qui fonctionne avec des robots qui nous permettent d'effectuer certaines actions. Et les robots, on ne peut pas tous les apporter avec soi en même temps. On doit toujours en sélectionner deux sur un maximum de quatre à la fin. Puis ça devient un peu casse-pied parce qu'on doit prévoir que quand on arrive à tel endroit, je vais avoir besoin du robot pour creuser et ensuite du robot pour voler, pour faire telle action. On arrive là, on découvre, on fait... Merde, j'ai pas le bon robot, je dois retourner à mon explorer et revenir ensuite. Et là, c'est vraiment là que le design, le bas blesse pour le design.
Ça m'a horripilé, cette affaire-là. J'ai dit, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe A est en congé, on travaille avec l'équipe C, ils étaient pas au même meeting, c'est quoi qui s'est passé? C'est ça qui me décourageait un petit peu, mais malgré tout, dans l'ensemble, je peux dire que j'ai eu du plaisir quand même, mais jusqu'au niveau où tu arrives et puis on te demande d'aller chercher les 45 trucs, puis par la suite, quand tu arrives au bout, puis justement, tu te rends compte que t'as le robot que t'as besoin, tu l'as pas.
C'est ça.
Pourquoi tu m'as pas averti? T'sais? Pourquoi tu me donnes pas l'option de l'appeler, de le téléporter, au lieu de me refaire le niveau, de revenir le chercher? Moi, j'ai trouvé ça un petit peu fastidieux et un peu mal pensé, disons.
Non, tout à fait. Et à ça, on ajoute sur console, parce que c'est un jeu qui est disponible sur Xbox One et PC. Lorsque vous achetez la version physique sur Xbox, vous jouez sur Xbox, c'est ça. Si vous achetez la version numérique, vous obtenez les deux versions en même temps parce que c'est un jeu qui fait partie du programme Xbox Play Anywhere. Bon. J'ai testé les deux versions parce que j'ai la version numérique. Sur Xbox, le jeu n'est pas laid, mais c'est pas le plus beau jeu non plus, mais il est quand même joli dans le sens que le style visuel est assez unique. Les gens me rappelaient un peu Borderlands. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que au niveau de Borderlands, c'est beaucoup plus gras, c'est beaucoup plus défini, alors que là, on y va dans quelque chose d'un peu plus smooth quand on regarde à distance. Fait que sur Xbox, c'est quand même beau, mais le gros problème, c'est que sur Xbox, les temps de chargement sont excessivement longs. Et à ça, on ajoute le fait que la jouabilité, le design vous amène à retourner constamment en arrière et à revenir en avant, faire beaucoup de va-et-vient.
Les temps de chargement n'arrêtent plus. Là.
Les chargements sont excessivement longs. Sur PC, c'est moins vrai. J'ai installé le jeu sur un SSD. Les chargements se font à l'intérieur de 10 secondes. C'est beaucoup plus rapide. Ce problème-là n'existe pas. Le studio nous promet une mise à jour pour améliorer la situation sur Xbox. C'est pas arrivé encore. J'espère que ça va arriver. C'est ces éléments-là mis ensemble qui minent un jeu qui a une excellente idée de scénario qui reste flou, mais que je trouve que c'est bien que ça reste flou comme ça parce que si, mise en contexte, si l'humanité partait sur une autre planète pour de vrai...
Ouais.
Se réveillait seulement 200 ans plus tard avec un gros trou noir entre les deux. Est-ce qu'on ne se rappelle pas exactement pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé entre les deux puis qu'on cherche à comprendre progressivement pourquoi et qu'on doive deviner certains trucs? Alors ça, je trouve que ça marche.
Et que l'histoire se dessine au fur et à mesure qu'on avance aussi. Je trouve ça intéressant, mais par petites bribes. C'est ça qui est cool dans ce jeu-là. Mais encore une fois, de mauvais choix de design, de mécanique de jeu qui viennent m'emmener... tuer le plaisir et nous sortir de cette immersion qui, ma foi, est souvent très fragile dans les jeux vidéo.
C'est vraiment dommage. Puis c'est pas beaucoup d'éléments. Hein. On parle de... Ajoute la possibilité de pouvoir apporter tous tes robots avec toi et corrige les et la possibilité de mettre une marque GPS sur la carte prismatique. Puis ajoute, corrige le problème de chargement qui est très, très long. Puis tu as un jeu qui est complètement différent avec ces trois seuls éléments-là parce que toute la base du jeu, les idées sont excellentes dans ce jeu-là. C'est vraiment dommage. Le studio s'est tiré une balle dans le pied tout seul avec ça.
Mais je pense que... Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut corriger tous ces éléments-là, mais juste au niveau des temps de chargement, là, ça va donner un fier coup de main à l'aventure. Combien tu donnes à ce jeu-là, toi?
Moi, j'avais donné un 7.5 quand même parce qu'au niveau de la jouabilité, la base du jeu, les combats... le scénario, l'environnement, le côté visuel, je trouve que tout ça fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment des excellents moments dans ce jeu-là. Les combats sont épiques. Les gros robots contre lesquels on se bat sont vraiment difficiles. Les combats généralement, les combats sont modérés en termes de difficulté. Donc, c'est accessible aux joueurs, mais pas tout le temps facile. Je suis mort quand même quelques fois parce que je l'ai échappé. Mais malheureusement, les éléments qu'on dit viennent miner le jeu. Pour moi, ça aurait été facilement un 8.5 ou un 9 autrement de tous ces problèmes.
Est-ce que tu as eu des problèmes à accomplir certaines missions parce que tu ne comprenais pas où tu étais rendu à un moment donné ou la tâche demandée n'était pas assez claire?
Non, ça ne m'est pas arrivé par contre. Je trouve que le jeu indique bien les objectifs à suivre, à quel endroit on doit aller. On a constamment des marques vertes. Même lorsqu'on est à l'intérieur d'un donjon, parfois, on a peut-être deux possibilités, deux chemins possibles à suivre, mais le jeu vous indique l'objectif suivant est dans telle direction. Donc ça, je trouve que c'est bien. Ça, c'est bien fait.
Moi, j'étais un peu plus ref que toi. Je donnais 6.5 à ce jeu-là. À un moment donné, j'ai dit, ça se peut pas qu'on revienne à un design comme celui-là. Mais à force de jouer, ma note, quand je l'ai ici, c'est 7. Je donnais 6.5, 7. Mais pas plus que ça, malheureusement, dans sa condition actuelle. Pas un mauvais jeu, pas un grand jeu. Ça aurait pu être un titre intéressant si on avait peaufiné ces vieilles mécaniques de jeu-là, puis si on avait rajouté un peu plus de... Si on avait peaufiné, si on avait pris le temps de polir ce jeu-là, je pense qu'on aurait eu un titre encore meilleur. Alors, ça vous tente de l'essayer. Le jeu s'appelle Record, disponible sur PS4, sur Windows PC et bien sûr sur Xbox One.
Oui, alors... et je voudrais juste remettre en contexte aussi que c'est pas un jeu qui est vendu comme un triple A non plus.
Non.
C'est un prix réduit pour un jeu neuf. Ça diminue pas le fait que ce jeu-là a beaucoup de défauts, mais la pilule est plus facile à avaler quand vous avez payé 50$ pour un jeu neuf versus 80 ou 90.
Tu voulais aussi parler l'aspect d'amélioration qu'il va y avoir sur Xbox One concernant les trophées.
Oui. Ça, c'est une mise à jour qui est intéressante. Elle est disponible dès maintenant pour les membres qui sont les membres sur le programme Preview. Mm-hmm. c'est une fonctionnalité qui existe déjà sur PS4 puis que j'ai pas énormément. Donc, c'est la possibilité. Oui, problème, je m'excuse.
Parce que je toussais et j'ai en toussant, le son du micro t'a coupé. Alors, répète ça, s'il te plaît.
Oui, en gros, c'est une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur la Xbox One. C'est une fonctionnalité qui existe déjà sur la PS4 et je l'apprécie énormément. C'est lorsque vous obtenez des trophées sur PlayStation 4, vous savez, il y a un pourcentage qui est lié en dessous du trophée. Ce pourcentage-là donne combien le pourcentage de joueurs qui ont joué au jeu ont obtenu ce trophée-là. Par exemple, si c'est écrit 25 %, ça veut dire que 25 % qui ont joué à ce jeu-là ont réussi à obtenir ce trophée-là. Ça crée une indication de la rareté du trophée. Bien, Microsoft arrive avec la même fonctionnalité sur Xbox One. Cette fonctionnalité n'était pas là. C'est une fonctionnalité qui est mineure. On s'entend que ça ne va pas révolutionner la console, mais je trouve ça le fun de voir que les deux grands majeurs présentement au niveau des consoles se rapprochent un peu au niveau des fonctionnalités. Ça veut dire qu'on regarde toujours qu'est-ce que l'autre fait dans la cour du voisin, puis on regarde ce que les joueurs aiment. Donc ça, je suis heureux de voir ça quand les fonctionnalités comme ça se matchent un peu, viennent s'appuyer.
On s'inspire les uns les autres. Oui, c'est ce qui arrive. Hein, c'est de l'inspiration. Et aussi, si on voit que ça pogne, mais pourquoi pas le faire dans notre patente, nous autres aussi. Ça va être juste plus le fun pour les gagnants. Et pour consolider notre écosystème, lui aussi, c'est fragile. N'est-ce pas, Max?
Tout à fait. Pour aller chercher... Si on peut aller chercher le moindre petit plaisir de plus au niveau du joueur, parce que les joueurs puis notre base de fans nous l'a demandé, aussi bien l'implanter. Une chose là qui veut savoir, pourcentage d'amis ou mondial, c'est un pourcentage mondial de ce que j'ai compris. Je n'ai pas vu le détail encore, je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais je crois que c'est un pourcentage mondial. Je vais démarrer ma console, tiens, en même temps.
Regarde ça en même temps. Parlant de console, mesdames, messieurs, vous savez que le mois d'octobre arrive à grands pas. oui, il va y avoir des jeux. Noël, cette année, là, les kids ou même les plus grands auront du choix. Alors, si vous commencez à faire la liste pour Minou, parce qu'il y a bien des stocks que Minou pourrait peut-être vous acheter... vous offrir en guise de cadeau de Noël. Et ça rajoute à ça les jeux gratuits maintenant pour les Xbox, les propriétaires de Gold sur Xbox. La liste est sortie et encore une fois, quelques titres intéressants. J'aimerais ça qu'ils sortent tous d'une shot, par exemple, personnellement, au lieu d'attendre un mois, deux semaines,
trois semaines. Ils font sortir toutes les deux semaines.
Tannez de ça. Donnez-moi les titres d'une shot. Alors, on va regarder ce que ça donne. Parle-moi-en un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu, mon beau bonhomme?
Du côté de Xbox One, en fait, ce sont des jeux pour Xbox One, mais les quatre jeux qu'on présente aujourd'hui sont des jeux compatibles Xbox One grâce à la fonction de rétrocompatibilité. Le premier est Super Mega Baseball, qui est un jeu de baseball très cartoon, très arcade aussi. C'est, si amusant. C'est pas quelque chose dans quoi vous allez investir 60 heures à faire des plus 2, moins 1 lorsque vous allez calculer les attaques. Mais c'est un jeu de baseball sympathique. C'est tout. Du côté des escapistes, vous incarnez des prisonniers qui doivent s'échapper de prison. C'est un bon petit jeu aussi. Ce sont des jeux indépendants, donc c'est très intéressant. Du côté des jeux qui sont des jeux de Xbox 60, on a un jeu de moto qui est Reflex MX ATV. Donc celui-là, je l'ai jamais testé. Un jeu de moto pour les fans de courses de sport. Et le jeu I Am Alive, qui est un autre jeu comme Record qui était très prometteur durant les périodes de promotion et qui est tombé malheureusement un petit peu à plat. Ça, je me souviens que tu avais fait la critique.
Ouais.
De I Am Alive à Monsieur Net.
Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est le hype là, qui a été créé autour de ce jeu-là qui avait séduit beaucoup de gens. Finalement, quand tu joues, tu te rends compte que Christy, c'est plat.
Mais moi, j'ai hâte de l'essayer parce que ce jeu-là, quand j'avais vu ton propre test, je ne l'avais pas acheté. Par contre, là maintenant, comme il fait partie des jeux gratuits, et je mets gratuit entre guillemets pour moi, c'est important. Parce que c'est... Hey, je vais quand même l'essayer, je vais quand même y jouer et je suis bien content de voir ce jeu-là débarquer en rétrocompatibilité sur Xbox One parce que j'ai revendu ma Xbox 360.
Donc, c'est ça, ça vaut la peine. Si vous êtes, ça coûte combien le Xbox Live? C'est rendu à combien? 80 par année à peu près? C'est-tu...
Non, le Xbox Live n'a pas bougé depuis son lancement. Donc, on parle à prix régulier de 60$ par année. Moi, je n'ai jamais payé plus de 50. Donc, je trouve toujours des cartes à rabais autour de 40-45$ par année. C'est le même prix. Mais le prix régulier est 60$ par année. Merci. Je crois que d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, le PlayStation Network, je fais une parenthèse, passait de 50$ canadiens par année à 70$ par année.
Ouais, c'est... Écoutez, ils vous donnent des jeux.
Ils donnent environ 1000$ de jeux par année. C'est une bonne offre, donc c'est quand même intéressant. Mais c'est évident que c'est aussi obligatoire si vous voulez jouer en ligne.
Hey, dis-moi, y a-t-il une façon avec la Gold? Je me suis acheté un disque de Cistera là, que j'ai branché dans ma Xbox pour avoir plus de place. Mm-hmm. Est-ce que je peux les laisser quelque part sur le serveur de Microsoft et faire comme avec Sony? Là, c'est-à-dire, j'y mets dans ma ludothèque, j'y touche pas, puis si j'ai le goût des jouets, j'y télécharge. On peut-tu faire ça ou faut absolument les télécharger encore sur sa fameuse Xbox?
Attends, tu veux dire le jeu, l'installation du jeu ou la sauvegarde?
Pas la sauvegarde. Si le jeu m'intéresse, mais je ne veux pas l'installer tout de suite. Le prendre, okay.
Oui, quand tu installes, en fait, c'est que dans l'interface, c'est un truc rapide, c'est ce que je fais souvent dans l'interface du magasin, de la boutique du Xbox. Lorsque vous achetez le jeu, il lance le téléchargement tout de suite. Mais il y a le bouton X à côté. Côté du téléchargement. Donc, j'achète le jeu puis je clique sur le X tout de suite à côté. Donc, à ce moment-là, il reste dans votre bibliothèque, mais il n'est pas téléchargé encore. Fait que lorsque vous serez prêt à le télécharger, vous pourrez le télécharger sur un disque dur externe et lorsque vous allez rebrancher votre disque dur externe, il va être disponible si vous voulez. L'utilisation du disque dur externe, je ne sais pas si tu le fais aussi sur la Xbox One, c'est très facile.
Ouais.
En fait, dès qu'on le branche, le système vous propose d'utiliser le disque. Vous enfoncez le bouton Home de la manette de Xbox pour accepter le pop-up et il formate automatiquement le disque pour qu'il soit compatible avec la Xbox. C'est vraiment, vraiment très, très facile à utiliser.
Très simple. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta machine, rien, dans le sens de mettre un disque dur à l'intérieur. Tu le branches, puis that's it. Cistera de plaisir, mesdames, messieurs. Il y en a du stock là-dessus. Puis ça m'évite de jouer au frisbee, chercher les disques tout le temps. Ça, c'est bien cool. Hey, les Pokémon, as-tu embarqué là-dedans, toi, un peu?
Oui, je joue encore. Je suis rendu niveau 15.
Ah, pas pire. On est rendu niveau 22 ici. On a marché près de 100... On est rendu à 106 km, fiston et moi, de marcher.
Tu as marché plus que moi. Moi, mes enfants veulent plus vivre, mais ils ont juste 50.
Ouais, moi, il est un petit peu plus vieux, sauf que c'est de la dope, ce maudit Pokémon-là. pas une chose qui me va. Salut, papa, ça ronge juste au Pokémon? Non, on va se dire bonjour avant, puis on va enlever le manteau, on va le temps de brosser les dents. T'sais. Non, mais on va aller se promener. Attends, comment ça a été à l'école? Les Pokémon! Mais les Pokémon, les gens me demandaient quand c'est sorti au début, combien de temps tu penses que ça va durer? Moi, j'avais dit, ça dépend, 2, 3, peut-être 6 mois si on est chanceux. Mais finalement, la folie est comme, c'est estompé pas mal, hein?
Oui. Ben, le jeu est paru, si je ne me trompe pas, durant le mois de juillet. On arrive à fin septembre. Ça s'estompe. L'utilisation mondiale s'estompe énormément pour le jeu. C'est normal.
Ouais.
Je ne crois pas que ce jeu-là a apporté de nouveautés suffisamment pour créer toujours l'envie de continuer, de retourner à chaque jour. Je crois que c'est ça qui manque à Pokémon Go, c'est de créer justement ce besoin de retourner au jeu-là pour la majorité des joueurs. C'est un jeu qui est intéressant, mais oui, il manque ça. Contrairement à d'autres jeux qui sont vraiment plus addictifs, comme Candy Crush ou...
Mais tu sais que ça a bien été quand même. Si on regarde, il y a un graphique qui est sorti, gracieuseté, de Sensor Tower. Si on regarde ça ici, tu te rends compte que Clash of Clans est resté 347 semaines au numéro 1 des applications de iTunes. Candy Crush 109 et Pokémon Go quand même, 74 semaines.
Ouais, quand même.
C'est du cash, ça.
C'est non négligeable. Donc, Niantic qui vont avoir fait une bonne affaire avec cette entente-là avec Nintendo, je pense.
Et si on jette un coup d'œil du côté de l'argent qui a été investi, 79 % des gens qui ont arrêté de payer jusqu'à partir de là, là. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont quand même mis beaucoup d'argent là-dedans. À coût de 15$ pour acheter des petites bobules et ces affaires-là. Mais si on jette un coup d'œil à ce graphique-là, check bien ça. Ça, c'est pour le 15 juillet. Regarde, ça a commencé à dégringoler jusqu'au 30 août. Là, tu vois la courbe des gens sont moins en moins populaires. Et on s'en rend compte lorsqu'on combat les gyms là, ou les arènes. Tes bonhommes restent là plus longtemps. au grand plaisir de mon fils, d'ailleurs. Papa, on est encore là, j'ai fait 40 sous. Yeah!
Oui, oui. On a dit 74 semaines, mais c'est bien 74 jours, en fait.
Hein. Excuse-moi, j'ai-tu dit semaine? C'est 74 jours, je m'excuse, c'est un lapsus. 74...
Ça arrive.
Oui, effectivement. 74 jours, donc c'est quand même intéressant. Mais malgré tout ça, si on jette un coup d'œil à ce graphique ici, on se rend compte que ce jeu-là fait encore de l'argent, il génère encore beaucoup d'argent. Regardez ça, au niveau des revenus, c'est 28,4 % des gens qui continuent à mettre de l'argent là-dedans.
Et puis, d'après moi, ce jeu-là a été rentabilisé.
Il est payé. En fait, combien? 444 millions, c'est-tu ça? J'ai vu passer un moment donné, en tout cas, dans ces eaux-là. C'est une compagnie, donc, qui doit être très content d'avoir eu cette idée-là. Et puis, ça a été inspiré par un poisson d'avril, rappelons-le. Te souviens-tu de ça?
Oui. Hey, ça me fait penser, Niantic a été fondé par un des anciens chez Google, qui était un des responsables de la division Google Maps, et puis a créé la compagnie Niantic, qui est une compagnie qui crée des jeux de géocaching à partir des données de cartes de Google Maps, parce qu'ils connaissaient bien le système. Après avoir fait deux ou trois jeux, on fait cette entente-là avec Nintendo, et je crois que c'était très bon pour leurs actions.
440 millions. C'est fou. En peu de mois, là, assez rapidement. C'est une bonne idée. Qu'on aime, qu'on n'aime pas.
Je pense que c'est une bonne
idée. Et je serais curieux de voir le nombre de dollars moyen qui a été mis par joueur là-dessus. C'est sûr qu'il y a des baleines qu'on appelle les whales qui vont mettre des 2000$ puis sans sac. Puis il y a ceux qui n'ont rien mis par rapport à. J'aimerais ça savoir le pourcentage per capita.
Moi, j'ai rien mis. Toi, si c'est pas indiscret, tu investis.
J'ai
acheté un sac plus grand.
Oui, ça je l'ai fait. Oui. J'ai acheté un sac plus grand et j'avoue avoir acheté à un moment donné des boboules, le kit à 13$. Ridicule, okay. Vous allez me dire. Mais regarde, je fume pas, je sors pas.
Je fume presque pas au resto.
Non, c'est ça. Non, mais écoute.
Non,
écoute, ça sert absolument à rien. Mais diante que ça rapproche la famille de se promener comme ça et faire des kilomètres pour attraper des petits bonhommes qui n'existent pas.
Oui, puis en même temps, tu as apprécié le jeu. Donc, d'une certaine façon, tu as appuyé le bon travail de la compagnie, ce qui est pas. On peut le voir comme ça.
Oui, ça, on peut le voir là-même aussi. Hey, avais-tu embarqué dans la vague des Titanfall quand c'est sorti, l'espèce de hype? On trouvait ça bien le fun, c'était cool, c'était le beau. Puis...
Moi, Denis, là, ça me faisait rager à toutes les fois que vous disiez qu'il n'y avait plus personne qui jouait à Titanfall dans Radio Talbot il y a 2 ans. Parce que j'étais un gros fan de Titanfall, puis à toutes les fois que j'allais jouer, il y avait tout le temps plein de gens. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de fun à ce jeu-là. C'est pour moi, j'ai été hype total dans Titanfall. Ça a été le FPS que j'ai le plus joué en 2014. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir.
Puis, quand je disais qu'il n'y avait personne, il y avait encore du monde?
Oui.
Il y en avait moins qu'au début, sûrement.
Oui, c'est clair. Mais le système était bien fait. C'est quand même des anciens de chez Infinity Wards qui ont démarré Respawn Studios. C'est des gens qui connaissent le jeu en ligne. C'est des gens qui savent comment créer une architecture serveur et de matchmaking efficace. Et ça fonctionnait bien. Donc, tu ne te rendais pas compte, même si tu voyais que le nombre de joueurs de balle diminuait. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore plus de joueurs de Titanfall qu'il y en a à Battleborn, qui est un jeu qui est paru au mois de mai ou à la fin du mois d'avril. Il faudrait que je vérifie ça, mais c'est assez...
Vérifions les chiffres, ça serait intéressant. Mais tu vas être content d'apprendre que, regarde, le deuxième s'en vient, Titanfall 2, avec encore une fois beaucoup de hype, très joli, encore plus beau, je trouve. Là, cette fois-ci, ils nous ont sorti une démo, une bande d'annonces plutôt, qui nous montre l'importance des pilotes là-dedans. Alors, écoute, si tu joues, va peut-être jouer aussi.
Je sais pas si je vais jouer au deuxième, parce que, comme j'ai expliqué tantôt, les moyens sont un petit peu plus difficiles cette année. Et je sais pas, il y a quelque chose dans le gameplay de Titanfall 2 qui me refroidit, mais j'ai pas réussi à retrouver quoi encore. Puis j'avais tellement aimé le premier, je pense qu'ils ont peut-être... J'ai peut-être l'impression qu'ils ont trop changé de choses par rapport au type d'origine, puis ça me refroidit. Donc, je sais pas, je me sens vraiment pas autant emballé par le jeu que je devrais que j'aurais dû l'être, tellement que j'étais fan de la première édition. C'est, j'arrive pas à comprendre.
C'est quand tu vas courir les wall runnings, les courses sur les murs par les AI, tes voix aller, ils se promènent partout. Tu te dis, wow, il est bien bon. Ah, c'est un robot, OK. Alors, j'aimerais ça faire ça. Je suis pas capable. Lui, il l'a parfaitement. Ah oui, c'est un robot. C'est ça qui m'a refroidi, moi. Je savais plus si je jouais contre des humains ou contre des robots, mais quand même, on a joué un petit peu, on a embarqué, puis à un moment donné, on a arrêté. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties. C'est juste ça, probablement. Mais écoute, on va l'essayer, celui-là, c'est sûr. On va s'y mettre. Puis, t'es-tu un gros fan de robots? Vraiment, généralement, là, cette espèce de...
J'aimais vraiment ça. Sérieusement, je trouvais que ça apportait une belle touche dans Titanfall de pouvoir entrer dans un robot puis avoir cette espèce de sentiment de surpuissance-là puis d'écraser les ennemis avec les pieds, de frapper un autre pilote avec un grand coup de poing puis qu'il explosait dans un nuage de sang complètement fou. Mais en même temps, tu n'étais pas invincible non plus parce qu'un pilote bien aguerri pouvait quand même détruire ton titan. Donc, je trouvais que ce jeu-là était excessivement bien balancé, c'était bien pensé. J'ai quand même hâte de voir le deuxième. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont en banque. J'ai hâte de voir si ce studio-là va être capable d'aller plus loin que le succès d'un seul jeu. C'est ce qu'on va voir.
Écoute, moi, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que j'ai trouvé fragile les maudits robots. Je trouvais qu'ils étaient moumounes un peu. J'aurais mis ça un peu plus fort.
Non? Non,
c'est vrai. Peut-être. Je ne sais pas. J'avais l'impression de jouer un géant plus qu'un robot. Ah, d'accord. On va l'essayer. On va l'essayer, puis on va s'amuser avec ça. D'autre part, amateurs de e-sports, apprenez avec joie peut-être que Rocket League, ce jeu gratuit qui a généré des millions de dollars en achat de petits véhicules à 2$, qui quand même connaît beaucoup de succès. Il y a un jeu qui s'en vient, une mise à jour, enfin une map qui s'en vient, qui va jouer sous l'eau, qui s'appelle Rocket League Aquadome. Et ça risque d'être pas mal le fun. On a des véhicules assez tripants, merci. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Et encore une fois, c'est Psyonix qui fait ça. Donc, on va faire des courses sous l'eau avec des véhicules, ma foi, qui sont jolis, qu'on devrait payer quelques dollars encore une fois. Il y en a bien sûr des véhicules de base qui sont là. Mais d'aller se promener sous l'eau, ça rajoute une dimension intéressante. L'aréna va être tout à fait gratuite. Et c'est la même engin de combat, sauf que ça se passe dans l'eau. Exactement. C'est cool.
J'ai hâte de voir, mais il y a un classique en jeu vidéo qu'on dit tout le temps. Il n'y a personne qui aime les niveaux sous l'eau.
C'est vrai, hein?
Oui. C'est comme rendu une blague, parce que c'est pas vrai, évidemment, mais en même temps, la mécanique d'être dans l'eau puis de voir tout au ralenti, il y a tout le temps quelque chose de très, très frustrant là-dedans. Si vous êtes des joueurs de Sonic 2, je vous parle à vous. Vous allez vous rappeler des niveaux qui sont sous l'eau.
Oui, mais là, on est sous un dôme qui est sous l'eau. Donc, c'est la même physique que sur la Terre.
Okay, c'est vrai, est-ce que j'ai pas bien compris? J'aurais aimé, ça aurait été drôle de voir des véhicules dans l'eau quand même.
Oui, ben, peut-être qu'on va se faire expulser de l'arène à un moment donné, je sais pas. Mais regarde, là, tu vois les espèces de poissons, les requins qui passent au-dessus. Tout ça, bien sûr, dans une musique entraînante. Rocket League Aquadome qui va être disponible gratuitement très prochainement au mois d'octobre.
Pour ceux qui possèdent le jeu est vendu 20$ maintenant. Il avait été lancé gratuitement pour les possesseurs de PlayStation Plus lorsque le jeu avait été lancé, mais ensuite il est redevenu payant là, pour tous les autres.
Ouais, moi j'ai eu la chance de le pogner gratuit.
C'est le fun,
s'amuse, c'est drôle.
C'est vraiment très drôle. On a des parties courtes, très, très rapides et excitantes. On peut jouer juste 15 minutes si ça nous tente, puis ensuite passer à autre chose. C'est vraiment très, très drôle. Les joueurs sont très habiles maintenant. Il y a vraiment du e-sports autour de ça. Puis quand on frappe ces joueurs-là qui sautent dans les airs et qui sont capables de contrôler le ballon avec une poussée et de faire des passes entre eux, c'est... Tu regardes ça, tu dis « OK, fini, je joue plus! »
C'est ça. Écoute, où tu joues, puis tu dis, bon, encore perdu. Mais pendant les Jeux de Rio, il avait fait cette mise à jour-là gratuite, justement, avec pour thème le soccer. Là, c'était cool. Hey, ça rentre, c'est cool. Je ne sais pas, ça rentre, les amis. Vous êtes là, vous êtes présents. C'est très cool sur Facebook aussi. Merci d'être là sur twitch.tv/radio-talbot. C'est là que ça se passe pour le chat. Venez faire un tour, venez jaser avec nous autres. Gênez-vous pas. Monsieur Snowden a lancé un message d'alerte pour les usagers qui aimeraient peut-être essayer Allo, cette nouvelle application. L'as-tu essayé, toi?
Non, je ne suis pas un grand utilisateur des services de Google et j'avais encore moins de gens à parler sur Allo, qui est un nouveau service de messagerie de la compagnie. Ce jeu-là, lorsqu'il a été présenté au dernier Google I.O., Google disait « ça va être notre service qui respecte la vie privée, les messages vont s'effacer automatiquement, le service va être crypté et sécurisé ». Voilà. Mais... Dans les faits, ça ne sera pas tout à fait ça, Denis.
Non, écoute, il y a M. Snowden qui, justement, crie, avertit les gens, écoutez, n'utilisez pas ce truc. Dans un des slogans, c'est expression assistant et plus de vie privée. Excuse-moi, plus de sécurité, mais notre ami Snowden a changé ça. C'est expression assistant et plus de vie privée. Il dit, en anglais, il dit, « A Google app that records every message you ever send and makes it available to police upon request. » Donc, une application Google qui va enregistrer tout ce qu'on fait sur cette dernière et rendre nos messages personnels disponibles à la demande de la police. Donc, il n'est pas très content. Il a donné une excellente entrevue. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, si ça vous tente, au magazine The Verge, magazine web, M. Snowden. Donc, il invite donc les gens à ne pas s'en servir. Il dit « Google Mail, Google Maps, and Google Surveillance, that's Halo. Do not use Halo, Edward Snowden. »
Alors, ça a le mérite d'être clair.
Oui. Écoute, je ne sais pas comment Google va réagir à ça, mais un peu plus tard, on a pu lire qu'il existe, paraît-il, une fonction. Attendez un petit peu, je l'ai ici. Ils disent qu'il va y avoir une fonction qui nous permettra d'utiliser cette application de façon non identifiée, anonyme. Donc, les messages vont être conservés temporairement. Et par contre, certains messages, si vous n'optez pas pour ça, vont rester sur le serveur tout le temps. Par contre, Google a affirmé que... Attends un petit peu. Les utilisateurs vont pouvoir donc arriver à effacer manuellement certains de ces messages.
Il y a un mode, si je me rappelle bien, c'est un mode incognito.
C'est ça.
Le nom que la fonction porte, ce qui passe les messages en version HTTPS, donc en version cryptée, et que les messages, normalement, devraient s'effacer des services de Google. Je pense que Snowden ne fait pas confiance à ça. Il y a Texter sur le chat de Twitch qui dit que Snowden aurait ensuite supprimé son tweet, ce qui ne lui ressemble pas habituellement. Ah. Après avoir fait cette déclaration-là. Donc, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir le compte de Snowden. Je n'ai pas vu ça passer.
On va regarder ça. Regarde, ce que je viens de lire ici présentement, c'est, attends un petit peu, par défaut, l'application va stocker les messages des utilisateurs. Il faudra donc les effacer de façon manuelle.
Oui, parce que le mode incognito, justement, c'est ça la twist, c'est qu'il n'est pas par défaut. Et on sait qu'il y a à peu près juste 5 à 10% des gens qui se soucient vraiment de ces options-là. Donc, essentiellement, la majorité des gens ne s'en préoccuperont pas. Donc, j'ai hâte de voir.
Mais Coder, de la presse, l'a essayé. Il paraît-il que pour lui, c'est la découverte d'une application qui est vraiment fantastique. Je n'ai pas eu la chance de le faire. J'étais un peu réticent. Je vais voir ce que ça va donner au cours des... Il faut que je l'essaye en tant que journaliste. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'y goûte. Mais écoute, de toute façon... rien à me reprocher, comme ils disent. Non, mais c'est juste l'information personnelle. De toute façon, on fait affaire avec Google. Ceux qui font affaire avec Gmail, tout ça, on est-tu d'accord qu'ils savent pas mal d'affaires sur nous autres déjà en partant?
Parce que oui.
Hein? Puis même si on utilise autre chose, ces services de courrier gratuits-là, c'est... quand c'est gratuit, c'est nous autres le produit.
Exact. Ou on veut vous amener à utiliser d'autres produits qui, eux, sont payants. Mais règle générale, tu as raison. Donc,
juste à penser à Facebook, ce qu'on fait en ce moment, puis tout ça.
Facebook est une compagnie très, très profitable. Hein?
Oui, et profiteuse aussi. D'autre part, si ça vous tente d'essayer quelque chose de pas pire, moi, je suis un grand fan de réalité virtuelle. Il y a un sac à dos qui est sorti aujourd'hui. En tout cas, ça a été présenté hier au Tokyo Game Show. Ça a commencé à sortir sur le web. C'est le MSI VR1. C'est un sac à dos de réalité virtuelle. C'est une espèce d'ordinateur qu'on porte sur son dos pour éliminer tous les fils. Quand on joue avec de la réalité virtuelle, on est toujours pogné dans un maudit fil à gauche et à droite. Eux autres, ils ont sorti donc un gadget pas mal de fun qui permet d'éliminer tous ces fils. Ça a été présenté donc au Tokyo Game Show. Ça pèse 3,58 kg. Ça pesait 5 avant, donc on l'a allégé un petit peu. Une configuration intéressante. C'est un Intel Core i7 qui a été surcadencé là-dedans. Il y a une carte graphique NVIDIA, la GeForce GTX 1070. Et un système de ventilation qui est assez silencieux, 41 dB seulement, qui fait le job. On porte ça sur son dos et on peut s'amuser donc dans des jeux sans avoir les fils dans les jambes. On nous promet 90 images par seconde dans nos lunettes, donc c'est intéressant. Et c'est la compagnie MSI qui nous dit que le sac à dos doit avoir une autonomie d'environ 90 minutes de pile là-dessus. Et on intègre toute la connectique qu'on a besoin, donc l'HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3, Type-C et USB 3. Donc, intéressant comme petit gadget. J'ai hâte de voir le prix de ça. Mais tu vois, ça commence à se raffiner lentement, mais sûrement, les bebelles pour nous mettre encore plus dans le jeu. Pas de prix pour l'instant, MSI qui va sortir ça. Est-ce que ça te branche, ce genre de truc-là, toi?
Bien, c'est assez intéressant parce que la solution pour jouer en VR présentement, disons, par exemple, avec un Oculus Rift, c'est pas très élégant. T'sais, vous devez rester à côté d'un PC très, très, très puissant, très performant, avec une grosse couette de fil, comme on dit en bon français. Ouais. Il y a jusqu'à vous. Et là, vous avez une paire de lunettes qui vous isole du monde extérieur avec des écouteurs, puis vous vous tenez debout dans votre pièce. Et vous devez, par-dessus ça, essayer de ne pas vous barrer les pieds dans votre fil.
C'est ça.
Bonne chance.
Bonne chance.
D'ailleurs, je suis technicien informatique, je fais des réparations.
Aïe, aïe, aïe. Fait que, non, moi, j'ai hâte de voir. J'ai commencé à tâter le terrain pour justement avoir plus de gadgets comme ça pour vous les présenter. Il y a une compagnie qui a sorti une espèce de subwoofer qu'on porte sur notre dos également. Et, ah, okay. Et ça a l'air d'être l'enfer. On devrait les avoir ici incessamment, ces gens-là, pour nous présenter ce produit dont j'oublie le nom, malheureusement. Mais je suis bien connecté avec la personne qui devrait donc... attends, j'ai-tu le nom ici? Qui devrait nous venir faire une démonstration justement pour... nous montrer ce que ça donne. Paraît-il que si ça vaut la peine et ça vibre, ça donne une autre dimension complètement lorsqu'on joue à des jeux, mais lorsqu'on se promène aussi et qu'on écoute notre musique. Alors, voilà. As-tu d'autres choses à rajouter là-dessus, mon beaubonhomme.com?
Non, beaubonhomme.com, il va très bien, mais non, j'ai pas rien d'autre à rajouter là-dessus, non, malheureusement. J'ai hâte de voir le produit, j'ai hâte de voir le prix aussi.
Ouais, ça c'est un fait, par exemple. Le prix risque d'être intéressant également, parce que dès qu'on touche au VR, et c'est nouveau, écoute, il y a toutes sortes de contraptions là, qui sortent, là, c'est fou, hein, des trucs qui te suspendent, qui te permettent de marcher, on a vu ça la dernière fois. Mais regarde le prix de ça, c'est 1200, 1500, 1200 $. C'est pas encore accessible. As-tu vu la nouvelle télé de LG qui diffuse...
Avec les deux côtés, oui.
Les deux côtés, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est 9000 $ US.
Comment est-ce qu'on dit ça? Il y a une expression en français qui dit « c'est inutile, donc indispensable ». Non, sérieusement, je cherchais l'utilité. Je voyais bien ça, par contre, dans des boutiques, en magasin, dans des centres de présentation. Il y a plein de situations où est-ce que ça peut être intéressant. À la maison, non, là-dessus, j'y crois pas. La seule chose que mes enfants vont réussir à faire avec ça, c'est réussir à passer un jouet de bord en bord pour voir s'ils vont voir des deux côtés. Je crois que oui, s'ils sont capables, mais sinon l'utilisation personnelle, peut-être moins, l'utilisation commerciale, très, très assurément.
Imagine-toi dans une boutique, par exemple, tu veux faire la promotion d'un produit à l'extérieur et un autre produit, et lorsque le truc se trouve à l'intérieur, ça peut être le fun. Dans les salles de conférence, OK, où c'est une belle, grande maison, puis tu peux épater la galerie, ça peut être cool. Mais à 10 000 US, ouais, t'as besoin d'avoir une belle, grande maison. Je pense.
Oui.
Je pense. En effet. Hey, écoute, ça fait le tour, je pense, pour ce soir, mon cher ami. Merci beaucoup d'avoir été là.
Hey, c'est le fun, comme d'habitude.
Écoute, je te dis, man, si tu restais dans le bout, là, ça souvent ici. On aurait du fun. Écoute, ton prochain jeu, c'est quoi?
Mon prochain jeu, c'est Forza Horizon 3, qui va être disponible demain pour si vous avez précommandé l'édition ultime. Sinon, la vraie sortie pour tous, c'est le 27. J'ai déjà commencé à jouer.
Ouais, mec, je disais pas, mais il y a deux semaines que je joue.
Ouais, c'est ça.
On n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de le dire, hein.
Ben là, maintenant, on a le droit de donner des critiques, mais on n'a pas le droit de le montrer beaucoup. J'ai le droit d'en faire un stream un petit peu. Puis, mais bref, ça va être le fun. Ça va être le fun.
Puis, tu sais qu'on peut avoir le camion des Halo dedans, hein? Ça va être ça?
J'ai reçu un code.
Mon ami Sir Maximum, il m'en a envoyé un aussi.
Ah oui, oui. Mais sérieusement, ça va être le fun. Comme on dit, on y a de jouer un petit peu. C'est dans la même lignée que Forza Horizon 2. Si vous avez apprécié, c'est sûr que vous allez aimer le 3. Il me prenait le même jeu, rajouter du contenu, mais garder toujours une mécanique aussi amusante et aussi arcade. Vous avez un jeu qui est simplement meilleur, qui s'appuie sur les mêmes bases, mais qui ajoute du contenu qui est meilleur qu'avant. Donc, ouais. Il est magnifique, il est très, très beau.
C'est pas un simulateur, c'est un jeu d'arcade avec certaines bases de simulation, mais très légère. Se promener avec des voitures de 200-300 000 piastres dans la jungle, qui sont à ça du sol, c'est pas logique, mais dans ce jeu-là, on peut le faire. On peut s'amuser, on peut rire.
Descendre dans un ruisseau sur le bord de la plage, dans l'eau, c'est le fun.
Exactement, c'est très arcade. Ouais. On peut pas en parler plus pour le moment. Je sais pas, je me souviens plus du NDA, qu'est-ce que ça disait exactement, mais on va en reparler parce que le jeu sort très prochainement. Et on se fera une petite course ensemble, on se fera une critique conjointe ou un playtest, ça serait cool.
Pour faire un playtest en multijoueur, Denis.
Ah ben oui, cool. Ben oui, on fait ça, puis... Oui, écoute, avec ma patente, si je suis capable de te mixer ça, on va se mettre ta face d'un bord, ma face de l'autre, les chars dans le milieu, puis on va te regarder me planter, ça va être drôle.
Oui.
Ça va être drôle. Merci, Max, d'avoir été là ce soir encore une fois. Et puis, est-ce que tu fais ton podcast? Est-ce que c'est revenu officiellement?
Oui, on est revenu. On a déjà 2 épisodes de fait pour la saison. Donc, on est de retour de manière stable à toutes les semaines. Maintenant, on est revenu dans une formule un peu plus petite, mais à toutes les semaines. Le lundi soir de 20h30.
Intéressant.
legendaire.com/en direct.
Manquez pas ça, c'est un excellent podcast encore une fois. Je veux savoir combien coûte Forza Horizon 3. Ça doit être dans les 60$ encore, 60-70 dans ce coin-là.
Ouais, c'est 80$ pour l'édition standard, un peu plus pour l'édition de luxe et encore beaucoup plus pour l'édition ultime.
C'est sûr. Moi, je suis moins ultime que j'étais. Parce que je trouve que l'ultime, souvent, ça ne rapporte pas grand-chose. Ça donne des petites affaires, des petits cosmétiques, des petites bebelles, finalement, des petites figurines. Puis là, tu regardes ton sol, t'es plein de petites figurines. Tu te dis, bon, il y a des figurines. J'en ai beaucoup.
C'est ouais, ça. Essentiellement, c'est ces versions numériques-là, ultimes, c'est qu'on a des season pass pour avoir des voitures, un programme VIP qui double les récompenses, puis qui va vous apporter des voitures uniques à tous les mois. Donc, si vous êtes un gros, gros fan, mais tout ça, vous pouvez l'acheter après aussi.
Voilà. Oui, c'est ça. J'avais tellement de voitures dans les versions, la version de Forza, la précédente, là, c'est incroyable, c'était le fun, c'était amusant. Tu peux passer 20 minutes à te promener dans les autos, à regarder ça, tu te dis, OK, non, celle-là, ouais, non, pas de couleur, tu la quittes. Ma blonde, elle descend, elle dit, non, tu joues de ça encore, tu regardes des images. Tu regardes pas des images, sur mon char, Minou. Concentration, un peu de rigueur, s'il vous plaît. Ah, regarde. Fait qu'on fera ça, on a un petit playtest en équipe, ça va être bien.
C'est très cool, oui, j'embarque.
Attention à toi, mon vieux, merci beaucoup d'avoir été là. Et vous autres à la maison, si vous habitez le coin de Québec, dans ce coin-là, venez faire un tour. On va être au Comic-Con de Québec. Il paraît-il qu'on va me faire une entrevue sur la scène, ça vous tente de me poser des questions. J'aurai une équipe de tournage là-bas qui va donc saisir les moments clés de ce Comic-Con et on va faire des entrevues avec les indépendants. Les indépendants, là, quand tu me vois arriver à ton kiosque, tu viens me chercher, tu dis « Hey, Talbot, viens faire une entrevue. » Gênez-vous pas. Vous êtes bien bons, vous faites des bons jeux, mais maudit côté marketing, vous l'avez pas. Non, on va se le dire franchement, vous ne l'avez pas. Vous êtes des gars gênés, des filles gênées. Quand tu vas arriver à Kodak, tu vas chercher la grosse face en avant. Tu viens faire un tour, viens voir mon jeu. La grosse face, c'est moi. Il va y aller de boire. On va jaser, on va faire une plug pour ton jeu parce que souvent, ton jeu, tu le lances puis on ne le sait pas. À un moment donné, j'apprends que ton jeu est top 3 puis tu n'as pas parlé à personne. T'es chanceux. Parce que des fois, c'est plus dur. Des fois, tu n'es pas top 3. Tu aimerais être top 3, mais tu n'es pas top partout. Fait que ça, on peut te donner un coup de main à ce niveau-là. Alors voilà, je te parle à toi, monsieur, madame l'indépendant qui va être au Comic-Con, ou même ceux qui font partie de la guilde. La guilde des... Allez, gênez-vous pas, envoyez-moi des courriels. J'en reçois beaucoup, pas le temps de répondre. Je ne passerai pas nécessairement cette semaine, mais à un moment donné, je vais vous passer en entrevue, puis on va jaser, parler de votre titre, puis ça peut vous aider à faire avancer votre affaire, mais tant mieux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à qui donc? Merci à Mountain Bike Québec qui est redevenu membre pour un 6e mois consécutif et à M. Taillon pour son 10$. C'est très apprécié. Allez faire un tour sur Patreon. Ça vous tente d'être mon patron. Vous pouvez m'aider au niveau du financement en devenant justement membre sur Patreon / Radio Talbot ou encore sur Twitch.tv / Radio Talbot également. Facile de même. Ici Denis Talbot, passez une excellente soirée. Et encore une fois, merci d'être là et de nous encourager dans ce qu'on fait. C'est très apprécié. Salut tout le monde.
Enfin, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Maintenant, il vous faut négocier l'hypothèque.
Tout ouvert ou fermé.
Quel prêteur choisir?
Où avez-vous mis le numéro du notaire déjà?
Ah oui, l'assurance hypothécaire en plus. Concentrez toutes ces étapes en un seul endroit. Votre conseiller.net. Du notaire aux assurances, évitez de vous y perdre. Nous vous accompagnerons dans votre processus d'acquisition avec un réseau de professionnels multidisciplinaires. Gagnez du temps et retrouvez tous sous un même toit. Votre conseiller.net, une équipe jeune et dynamique, signée Yann Sénéchal.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous, radiotalbot@gmail.com.